Radio Spoutnik. Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas.
Le Brexit a divisé l'Angleterre entre un peuple désireux d'indépendance et les centres urbains attachés à l'Union européenne. Au fond, ce séisme politique révèle des clivages politiques profonds.
Je hais les nations, épiphénomène sanglant de l'histoire humaine, et méprise les nationalistes. C'est en ces termes que l'intellectuel libéral Gaspard Koenig, la nouvelle coqueluche des médias, réagissait au Brexit. Jeune cosmopolite de tout pays, unissez-vous, semble-t-il dire, au nom, je cite cette fois-ci, de la liberté, la jeunesse, l'ouverture et la prospérité. Alors est-ce à dire que seul le libéralisme et le multiculturalisme pourront sauver l'Europe ? Alors pour aller au-delà de ces idées, pour comprendre ce qui gouverne aujourd'hui les esprits, nous accueillons en studio Charles Becbédé et Thibaut Isabelle. Charles Becbédé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes entrepreneur, vous avez créé plusieurs entreprises, le courtier en ligne Selftrade, le fournisseur d'électricité Poeo, le producteur agricole Agrogénération, la société de réservation de loisirs Habitat, mais la société financière Audacia. Rien que ça. Alors comme si cela ne suffisait pas, vous êtes aussi homme politique et puis vous avez été candidat aux élections municipales à Paris et avez récemment publié un très bel ouvrage, Charnellement de France, aux éditions Pierre-Guillaume de Roux. Alors Thibaut Isabelle, bonjour.
Bonjour.
Quant à vous, vous êtes le rédacteur en chef de la revue Crisis, créée par Alain de Benoît, et dont le numéro sur la modernité vient tout juste de paraître. Vous avez publié de nombreux ouvrages, malgré votre jeune âge encore. J'en ne mentionnerai qu'un seul, celui qui m'a marqué, à savoir « À bout de souffle, études et entretiens sur l'épuisement du monde civilisé », publié aux éditions La Méduse en 2012. Merci à tous les deux de votre présence ici. Alors, le Brexit est un véritable séisme, et comme le disait Jean-Baptiste, il bouleverse la donne actuelle. Votre réaction, Charles Becbédé, est-ce là, selon vous, la victoire du plus étroit des particularismes et une défaite du multiculturalisme ?
C'est une victoire de la singularité. C'est un rejet, en effet, de cette construction européenne qu'on appelle l'Union européenne et qui démontre un certain nombre, beaucoup de dysfonctionnements. Et puis le peuple anglais, qui est un peuple fier, a profité de cette occasion pour dire ça suffit, c'est nous qui décidons. C'est Juncker qui disait en gros, je me souviens plus de la quote exacte, mais enfin qui disait la démocratie devait s'incliner devant les traités européens. Bon bah c'est ça que les Anglais ont rejeté, et je pense que c'est plutôt une bonne chose.
Thibaut Isabelle, partagez-vous ce constat ?
Oui, et pourtant, paradoxalement, je suis un fervent européiste, mais précisément parce que j'aime l'Europe, je me réjouis que ce vote ait eu lieu. Ce n'est pas seulement un vote idéologique, c'est aussi un vote de classe. C'est le vote de l'Angleterre périphérique contre l'Angleterre des capitales. L'Europe a choisi un chemin qui est profondément pervers depuis de nombreuses années, et en tant qu'européiste précisément, je pense qu'il fallait y mettre un terme pour pouvoir peut-être un jour réenvisager une autre Europe, en tout cas faire en sorte que la vie politique sur le continent puisse se réorienter vers d'autres directions. C'est un marqueur fort qui a été envoyé par le peuple anglais, et il est probable que cela fera réagir les autres populations d'Europe dans les prochaines années.
Oui, je rebondis aussi sur ce que vous disiez sur le multiculturalisme. Il est clair qu'il y a actuellement, au niveau de l'Union européenne et dans un certain nombre de pays comme le Royaume-Uni et la France, des hommes politiques qui sont au pouvoir alternativement, et qui considèrent que ces vieilles nations européennes sont en effet obsolètes et que elles sont multiculturelles. Or ça, c'est vraiment quelque chose que les peuples rejettent, il me semble, de plus en plus en bloc. Et la France, en tout cas, n'est pas multiculturelle. Elle est peut-être multiethnique, on va en parler. Il y a des personnes qui sont multiculturelles, mais cette nation, la France, avec sa langue, son histoire, sa culture, elle n'est pas multiculturelle. Il ne faut pas qu'elle le soit, sinon c'est le chaos et ça finira en guerre civile, parce qu'on sera dans une instabilité totale.
Il y a tout de même une chose que je veux dire à cet égard, c'est que on a toujours tendance à considérer qu'il y a deux camps qui s'opposent, c'est le camp des Européens et le camp des nationaux. Moi, je pense que c'est beaucoup plus complexe. Je ne suis pas convaincu que les populations qui rejettent la communauté européenne aujourd'hui soient fondamentalement hostiles à l'Europe et fondamentalement nationalistes. C'est beaucoup plus compliqué. Bien sûr, il y a aussi un sentiment national qui entre en ligne de compte. dont on doit tenir compte par conséquent. Mais au-delà de ça, c'est surtout un rejet d'un certain système qui n'est pas seulement économique, qui est au-delà de ça même culturel, politico-médiatique. Les populations se sentent déclassées culturellement par le pouvoir symbolique qui est entre les mains d'une coterie internationale. C'est cette coterie internationale qui est rejetée à travers la communauté européenne. Et je crois qu'on simplifierait les choses en considérant qu'il y a simplement deux camps qui s'opposent. Bien sûr, il y a le souverainisme et il y a une aspiration à la souveraineté, mais il y a d'abord le rejet d'un certain système de pensée et d'une domination symbolique exercée par les élites internationales aujourd'hui. Et on ne doit pas rigidifier les oppositions idéologiques, parce que justement, je crois que le peuple se cherche, lui-même ne sait pas exactement ce qu'il veut, mais en tout cas, il sait ce qu'il ne veut pas, et il sait qu'il en a assez d'être déclassé par ceux qui ont le pouvoir et le monopole de la domination symbolique aujourd'hui.
Mais on ne s'oppose pas complètement. Bien au contraire, moi je pense que, enfin moi je suis un Européen, je suis fier de la civilisation européenne qui a au moins 15 siècles, voire plus, et donc simplement je constate que l'Union Européenne, qui est une modalité technique de construction de l'Europe depuis quelques décennies, mais malheureusement ne fonctionne pas, en particulier depuis 20 ans, quoi, et depuis les élargissements aux pays de l'Est, et peut-être aussi l'élargissement au Royaume-Uni, qui était peut-être pas approprié. Donc, tout à fait d'accord avec votre propos. Après, je me méfie quand même des piques aux élites mondialistes, parce que il faut pas non plus.
Vous sentez-vous concerné, Charles Bec? Oui.
Bah peut-être. C'était un message sibyllin, mais
non, ça ne vous ciblait pas particulièrement. C'était un conseil général.
Pas non plus sombrer non plus dans la caricature qui nous rappellerait les heures les plus sombres de notre histoire, n'est-ce pas?
Mais d'un autre côté, je crois que ce sont précisément les médias, bien souvent, et la fameuse coterie internationale que je dénonçais, qui jouent ça. Parce que dans la manière qu'ont les médias de dénoncer ceux qui sont hostiles à la construction européenne telle qu'elle se fait, dans la façon qu'ils ont de la dénoncer comme un phénomène populiste, il y a l'idée que les gens qui seraient hostiles à l'Europe seraient fondamentalement nationalistes, ils seraient fondamentalement xénophobes, et c'est au nom du nationalisme et de la xénophobie qu'ils s'en prennent à la construction européenne. Or, non, la construction européenne, elle a des vices. Elle a des vices qui sont perçus par les classes populaires. Et en outre, quel que soit le jugement qu'on porte sur la construction européenne, elle se fait en décalage avec les aspirations d'une partie considérable de la population. Ça ne veut pas dire que ces gens sont populistes. Ça ne veut pas dire qu'ils sont xénophobes. Ça veut dire qu'ils veulent une autre politique.
On est tout à fait d'accord, et Natacha Polony a fait une très bonne tribune dans le Figaro sur ce sujet, sur non, nous ne sommes pas tous xénophobes, enfin, en tout cas ceux qui sont pour le Brexit ne sont pas tous des xénophobes, ce qui est tout à fait vrai.
Alors cela dit, pour rebondir sur ce que vous qualifiez d'appartenance de classe pratiquement, et sur votre morale, vous êtes d'une part entrepreneur, vous êtes aussi chrétien, vous le revendiquez haut et fort, vous êtes décrit comme un libérateur enraciné. N'avez-vous pas le sentiment qu'il y a une contradiction à cet endroit-là?
Ah, alors, non, absolument pas. En fait, moi, je pense qu'on peut réconcilier ceux qui veulent conquérir le monde et qui veulent, en effet, tirer parti de la mondialisation, parce qu'il y a des aspects positifs, mais qui, en même temps, veulent rester enracinés.
Quels sont les aspects positifs?
Veulent défendre notre belle culture de France.
Quels sont les aspects positifs de la mondialisation?
Alors, les aspects positifs, écoutez, c'est très simple. On a besoin d'avoir une solidarité. Pour les personnes qui, à un moment, un accident de la vie, sont laissées au bord du chemin. Et donc, pour ça, ça coûte cher. Ça coûte de plus en plus cher. Donc, il est important de pouvoir créer des richesses. Et créer des richesses, on n'a pas trouvé mieux, pour le moment, que le système dit de marché, le libéralisme économique, qui permet à des milliers d'acteurs économiques par le système de l'entrepreneuriat, qui est quelque chose qui existe finalement depuis deux siècles, pour résumer, qui permet donc cette création de richesses. C'est le moins mauvais système pour créer ces richesses qui sont nécessaires à la solidarité.
Isabelle.
Le problème, c'est que, bien sûr, créer des richesses, c'est une bonne chose, personne ne va s'en plaindre. Mais créer des richesses, à quel prix, j'ai envie de dire? Et à quel prix humain? À quel prix social? À quel prix culturel? À quel prix moral? Moi, ce qui m'ennuie dans le libéralisme, et plus encore, pour être honnête, dans le libéralisme mondialisé, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, c'est le fait que le souci d'accumuler les richesses aboutit à une destruction de toutes les formes d'enracinement. Nous vivons aujourd'hui dans un monde où, à l'échelle planétaire, les cultures sont détruites par l'homogénéisation à travers le marché. C'est vrai d'une nation à l'autre, mais à l'intérieur même des nations. Tout est arasé, par le culte de la consommation, parce que il est plus facile de vendre un produit à l'échelle de la planète à des êtres humains qui sont formés selon le même modèle. Et je pense que la pensée unique, la culture unique, telle qu'elle s'impose dans notre pays, mais dans tous les pays du monde, a pour premier fondement le fait que nous avons besoin de normaliser les comportements humains pour pouvoir vendre des produits d'une manière homogène partout sur Terre. Le culte de la consommation aboutit à ce que tout ce qui faisait nos différences, tout ce qui faisait que nous avions des racines, tout ce qui faisait que nous avions une culture, une haute culture ou une culture populaire, tout cela est en train de disparaître sous la pression du marché, sous la pression internationale du marché. Et par conséquent, il me paraît très difficile aujourd'hui de souhaiter réenraciner et réenchanter le monde si on ne prend pas en compte la problématique liée au capitalisme. Je pense que le capitalisme, dans sa forme mondialisée, est intrinsèquement incompatible avec la culture dans ce qu'elle a d'enraciné et de vivant.
Bah, c'est là où on est en désaccord, parce que bien sûr je rejette la standardisation, je veux de la singularité. Je pense que les entreprises françaises d'ailleurs, prenons par exemple l'agroalimentaire, ce sont les AOC, ce sont les labels qui leur permettent de se distinguer dans le monde entier. Et donc je suis contre la McDonaldisation du monde, ça on est d'accord. En revanche, attention à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, vous pouvez tout à fait avoir des capitalistes entrepreneurs enracinés qui savent créer de la richesse, encore une fois nécessaire pour la solidarité, et qui en même temps rejettent la standardisation. Donc simplement, il faut en effet être très ferme, en revanche, sur le libéralisme philosophique, c'est-à-dire qu'il faut rejeter. Donc moi je suis pour un certain libéralisme dans le domaine politique déjà, bon ça veut dire que chacun peut exprimer ses opinions, on est d'accord là-dessus. Sur le libéralisme économique, encore une fois c'est le moins mauvais système, mais ça doit se restreindre au domaine de l'avoir. C'est-à-dire, il faut surtout pas aller vers un libéralisme qui pénétrerait le domaine beaucoup plus profond et plus important de l'être. Et c'est là que certains libéraux philosophiques, et vous citiez Gaspard Koenig tout à l'heure, font une erreur folle. Et il va justifier au nom de son libéralisme dogmatique la GPA et d'autres pratiques sordides. Et quand je lui dis, puisque j'étais en débat une fois avec lui, comment peux-tu défendre cela, que des bourgeois parisiens puissent acheter un bébé sur commande auprès d'une femme indienne, il me dit, mais non, c'est dans mon système parfait, il n'y a pas de femme indienne qui propose cela, parce que elle serait entrepreneur, et donc elle aurait un niveau de vie qui ferait qu'elle renoncerait à ce comportement. Pour vous dire à quel point ils sont dans une utopie qui peut être mortifère.
Le problème, c'est que le libéralisme prétend défendre la liberté. En théorie, oui, mais en pratique. On dénonce le culte de la personnalité qui est mis en œuvre dans les régimes totalitaires. Le culte de la personnalité dans les régimes totalitaires, qu'est-ce que c'est ? Ce sont de grandes affiches affichées, présentées placardées partout sur les murs pour vanter les mérites d'une personnalité politique. Alors certes, nos grandes affiches publicitaires à nous, elles ne vantent pas les mérites de personnalités politiques, encore que ce soit très souvent le cas aux États-Unis par exemple, on n'est pas habitué en France, mais il y a un caractère publicitaire de la politique. Mais nous vivons sous le paradigme publicitaire d'une manière profondément totalitaire aujourd'hui. Nous sommes, en théorie, le libéralisme nous rend libres, et pourtant, la publicité est partout. Elle est extrêmement intrusive et elle façonne les mentalités d'une manière forte, on ne peut pas le nier. L'homme d'aujourd'hui n'est pas le même que l'homme d'il y a un siècle, et il n'est pas le même en premier lieu du fait de la publicité. C'est pour ça que je pense que le libéralisme, tout en prétendant défendre la liberté, est profondément aliénant d'un point de vue culturel, et tout ce dont on parle en matière justement d'effondrement des cultures, en matière de désenracinement, est lié aux nouvelles cultures qui sont imposées par le libéralisme publicitaire mondialisé et qui font que nous ne pouvons plus avoir les modes de vie et les mentalités que nous avions par le passé.
Alors Charles Bébédé, vous écrivez dans votre ouvrage que, je vous cite, « le christianisme est le soubassement culturel indispensable à tout projet de renaissance française », parce que vous parlez de réenchanter justement notre société. Vous plaidez donc pour inscrire les origines chrétiennes de la France dans notre constitution, je vous ai bien compris ?
Oui, tout à fait. Ben justement, je crois à l'existence d'une structure qui dans la société française, c'est-à-dire je suis pas donc un vrai libéral, parce qu'un vrai libéral il se reconnaît dans aucune structure, ni il ne reconnaît ni la loi naturelle,
ce que proposent d'ailleurs des candidats à la primaire de la droite.
Oui, Nicolas certains, Sarkozy, comme Jean-Frédéric Poisson notamment, en effet, mais et peut-être quelques autres. C'est vrai que Nicolas Sarkozy l'a évoqué dans un de ses discours, notamment le discours de Lille. Donc moi, je pense que, en effet, le débat il est culturel. Le vrai défi actuellement en France, c'était sans doute le cas aussi au Royaume-Uni, c'est pas le défi économique et social. Bien sûr, chômage, dette, déficit, ça va très mal, on est d'accord, et ça il faudra quelques réformes. Mais en réalité, si on veut sortir du climat de défiance qui a atteint un niveau inouï dans notre pays, avec les tensions communautaristes, avec l'école qui ne fonctionne plus, avec la famille qui est attaquée, il est absolument clé de réenraciner la République dans son être. Et son être, c'est cette histoire, c'est ces 15 siècles de culture, d'élaboration de notre culture, avec des racines grecques, latines, celtes, et chrétienne. Et moi, je pense qu'on peut pas faire aimer la France aux Français si on ne sort pas du déni de cette haine de soi. Il faut reconnaître nos racines, premièrement. Deuxièmement, ça va permettre de fonder en droit la prééminence du fait culturel chrétien. Et en effet, ça, c'est important. Je veux pas faire de la France un État catholique, je vous rassure. Et le raisonnement que je tiens, je pourrais le tenir si j'étais athée ou agnostique, c'est pas parce que je suis chrétien que je dis cela. C'est juste une réalité historique, contrairement à ce que disait Pierre Moscovici. Et en reconnaissant ce fait culturel chrétien et non cultuel ni religieux, eh bien, on va pouvoir donner une force aux vieux principes antiques, à Rome fait comme les Romains, que saint Ambroise proclamait et conseillait à saint Augustin.
Vous pensez que c'est une priorité d'inscrire
Je pense que c'est une priorité absolue. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, on sort du déni et on peut, à ce moment-là, on a une France réconciliée après le traumatisme de la Révolution française. On peut faire aimer cette France à tous les Français et elle n'est pas née en 1789, encore moins en 1905.
Ensuite. Est-ce que vous pouvez parler de France réconciliée? Parce que, quand même, oui. Des intellectuels et non des moindres, comme Pierre Manant, plaident pour un contrat social avec les Français de confession musulmane. Est-ce que vous n'avez pas justement l'impression de les rejeter aux marges de la cité française?
C'est un ouvrage de Pierre Manant qui est très intéressant, justement. Il dit qu'il faut réactiver notre identité. Et donc, il propose, comme je le fais, d'assumer nos racines chrétiennes dans la Constitution, pourquoi pas. Après, c'est vrai que, et là je suis en désaccord avec lui, il va aller jusqu'au fameux accommodement raisonnable, parce qu'il pense que c'est trop tard, qu'on est allé trop loin dans le déni et dans le multiculturel, et que donc il faut, pour des raisons pragmatiques, proposer donc ces accommodements à la loi de 1905 pour les Français de sensibilité musulmane. Je pense que c'est une erreur. Je pense qu'il est possible de réenraciner la France dans son identité, dans son histoire. Mais en effet, ça va prendre quelques années parce qu'il va falloir retransmettre cette belle culture à tous les Français, et en particulier ceux qui nous ont rejoints plus récemment.
Alors Thibault Isabelle, voudriez-vous inscrire les origines chrétiennes de la France dans la Constitution ?
Non, certainement pas, si ce n'est que, indéniablement, le christianisme a beaucoup apporté historiquement à la culture française. Ça, on ne peut pas le remettre en cause. Simplement, le christianisme est une religion tardvenue en France, et si on reconnaît aujourd'hui l'influence du christianisme sur la culture française, alors indéniablement, dans deux ou trois siècles, il faudra reconnaître l'influence de la culture musulmane sur la culture française, parce que le christianisme était une religion d'importation. Les racines de la France et de l'Europe sont d'une autre nature. Elles renvoient à la culture gréco-romaine. Elles renvoient à tout le patrimoine païen européen qui assurait les fondements de la constitution de la civilisation d'Europe. Donc oui, moi je crois que c'est important de mettre en avant les racines d'un peuple. Sur ce point, nous sommes d'accord. C'est fondamental parce que c'est ce qui fonde un horizon commun. On vit ensemble. Nous ne sommes pas les mêmes, mais pourtant nous avons un horizon commun et c'est ce qui fonde le ciment de la cité. Donc, avoir un horizon commun et se retrouver des racines historiques communes, je ne dis pas des racines ethniques, mais je dis bien des racines historiques communes, c'est quelque chose qui me paraît fondamental. Chez les anciens, lorsque, je parle de la Grèce antique, lorsqu'on accueillait des peuples qui venaient d'autres cités ou même de lieux très étrangers, on autorisait ces peuples à avoir leur propre culte, prier leur propre dieu, mais on leur demandait dans le même temps de prier les dieux de la cité. Il y avait à la fois un culte de la cité qui était le culte des divinités locales, et en même temps, il y avait le culte des divinités dont on héritait par le sang. Il y avait à la fois le droit du sol et le droit du sang qui se combinaient. Et je trouve que c'est une très belle manière de voir les choses. Ça permet à chacun de venir avec ses racines et en même temps de partager un patrimoine commun. Donc de ce point de vue, reconnaître qu'il y a des racines culturelles à l'Europe, je trouve que c'est une très bonne chose. À condition de reconnaître que ces racines sont multiples. Elles ne sont pas seulement chrétiennes, elles sont aussi païennes, elles sont grecques, elles sont romaines, elles sont juives même dans une certaine mesure, arabes aussi depuis longtemps. Et donc reconnaître que qu'il y a des racines, mais que ces racines sont multiples, c'est aussi s'ouvrir à ce que proposait Pierre Manant, et de ce point de vue, moi je suis tout de même d'accord avec lui. Je crois que les accommodements raisonnables sont justement raisonnables aujourd'hui, parce que c'est une bonne manière de passer une forme de contrat social avec des populations qui sont originaires d'autres ethnies et d'autres cultures. Nous avons choisi de vivre avec ces populations. Elles sont venues. Tous les immigrés qui se sont installés en France n'étaient pas des immigrés clandestins. On peut accepter ou refuser ce choix. On peut estimer qu'il était judicieux ou mal avisé. En tout cas, ce choix a été fait. Maintenant que ces populations sont là, il faut faire en sorte de recréer un ciment culturel. Et je crois que ce ciment culturel implique la reconnaissance de racines communes, d'un horizon commun, mais sur une base pluraliste, et donc en acceptant des accommodements raisonnables.
Thibault, Isabelle, vos positions sont pour le moins hétérodoxes. Croyez-vous encore au clivage droite-gauche ?
Alors, il y a des clivages, ça c'est indéniable. Ce que je remets en cause, c'est le fait que la gauche et la droite représentent la meilleure façon d'appréhender les véritables oppositions aujourd'hui. Moi, je comprends qu'on puisse être socialiste ou capitaliste, par exemple. Je comprends qu'on soit nationaliste ou antinationaliste. Qu'on soit mondialiste ou qu'au contraire, on soit localiste. Mais être de gauche ou de droite, je ne suis pas sûr que ça ait beaucoup de signification. Les gens s'en rendent de plus en plus compte. Et plus on va vouloir pérenniser par la force des clivages qui ne veulent plus rien dire pour, au fond, faire le jeu d'une alternance électorale où tout le monde s'accommode bien de cette situation, eh bien, on va creuser le fossé entre le peuple et les élites et les gens finiront par en avoir assez et plus qu'assez. C'est pourquoi il faut remettre en cause le clivage gauche-droite, non pas pour brouiller les cartes, mais justement pour les clarifier, pour faire en sorte qu'on ait de vrais débats politiques, de vrais enjeux politiques, de vraies discussions, et sur la base de ces vraies discussions, on pourra refonder un vivre ensemble, parce que le vivre ensemble, il se nourrit de débats, et les débats aujourd'hui, il n'y en a plus, ou alors ce sont de faux débats.
Et donc, Charles Becbédé, quant à vous, croyez-vous encore à la droite ?
Je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. Le clivage droite-gauche actuel est tout à fait inopérant que ce soit l'axe tout étatisme, libéralisme économique, l'axe défenseur du fait religieux et les laïcité intégrale sur l'axe déconstructeur et enraciné. On voit bien qu'on a des personnes qui sont à la fois à gauche et à droite sur chacun de ces trois grands clivages. Mais ça serait quand même pratique de revenir à une vraie droite et une vraie gauche. Et actuellement, c'est vrai que c'est un peu une bouillie, surtout, et là je partage encore une fois ce que vous venez de dire, il y a une espèce de défaut de pensée, c'est-à-dire que les hommes politiques, la classe politique, finalement, est le nez dans le guidon et ne pense plus.
Vraie droite, en fait.
C'est-à-dire une droite qui défendrait l'enracinement, qui serait libérale au niveau économique. Donc, c'est un peu mes convictions, hein, pardon. Moi, je me situe à droite, mais j'aimerais que ce soit une vraie droite qui soit, encore une fois, contre le tout-étatisme, pour un État recentré sur le régalien, qui du coup est plus efficace et plus fort, qui soit enraciné, qui défende notre culture, qui permette l'expression du fait religieux dans l'espace public, parce que la laïcité intransigeante et sectaire qui interdit toute manifestation du religieux, c'est une folie et c'est donc une utopie et ça peut conduire à des conflits. Ça nie tellement la dimension religieuse de l'homme que ça en est absurde. Et voilà, après, il y a d'autres clivages, mais c'est vrai que ça aiderait si donc il y avait ce grand débat d'idées. Qui sait, peut-être la présidentielle en sera l'occasion, j'en doute, mais en tout cas que les années à venir soient propices à ce débat d'idées, puis que les choses se reclarifient.
Et alors Thibault, Isabelle, et ce sera le mot de la fin, vous reconnaîtriez-vous dans cette droite, ou plutôt dans cette vraie gauche ?
Ben non, parce que justement, moi je pense que je suis attaché à l'idée de racines, de tradition, mais je pense justement que les racines et les traditions trouvent leur pire ennemi aujourd'hui dans le libéralisme mondialisé, et c'est pourquoi je pense que nous allons assister dans les prochaines années à de nouveaux clivages. La gauche va disparaître, sera remplacée par un socialisme qui sera en même temps anticapitaliste et profondément enraciné. Et je pense que face à ce parti populaire à la fois traditionnaliste et anticapitaliste, va se dresser un parti des élites qui sera le parti du libéralisme dans le domaine économique, mais aussi du nomadisme dans le domaine culturel, du désenracinement permanent. Je crois que les clivages qui vont se réimposer dans les 10 ou 20 prochaines années s'articuleront autour de ce nouvel axe. C'est ce qu'on voit déjà émerger, par exemple, avec ce qui se passe autour du Brexit. Et ça va reconfigurer très en profondeur non seulement la vie politique, mais aussi toute la vie sociale.
Thibault Isabel, Charles Becbédé, merci à tous les deux pour votre présence et pour ce débat aussi profond qu'enrichissant.
Merci de votre accueil.
Radio Spoutnik. Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas.